Du lundi au vendredi, toute l'actu des réseaux.
En mai 2024, Nintendo a publié des résultats financiers records. La firme japonaise, qui a démarré en vendant des cartes à jouer à la fin du 19e siècle, est habituée à aller à contre-courant. Elle a tout misé sur des marques fortes et des jeux pour toute la famille. On pense bien sûr à Mario, mais n'oublions pas le jeu qui a fait de la Game Boy la console portable ultime, Tetris. Sûrement le premier jeu qui rendait accro dès les premières secondes. Aujourd'hui, si l'on compte les versions mobiles, Tetris est écoulé à plus de 560 millions d'exemplaires dans le monde. Mais l'histoire de ce jeu est digne d'un roman d'espionnage. On y retrouve des scientifiques russes, des agents du KGB, des hommes d'affaires véreux et des coups fourrés, arnaques, crimes et putaclic, Tetris, la guerre froide du jeu vidéo.
En 1986, Robert Stein est en voyage à Budapest. Il n'est pas en Hongrie pour le tourisme, mais pour les affaires. Stein est un entrepreneur et il s'est fait un nom dans l'informatique en rachetant des logiciels pour quelques cacahuètes dans les pays soviétiques pour les revendre en Occident. C'est pourquoi il est souvent dans la capitale hongroise, car le pays est un des rares à jouir d'une autonomie sur le plan économique. C'est une petite brèche dans le rideau de fer.
Et justement, en cet après-midi du milieu des années 80, Stein rend visite à l'Institut de recherche en sciences informatiques hongroise. Et dans un coin, il repère un chercheur qui empile des cubes sur un écran d'ordinateur. L'homme d'affaires britannique veut savoir ce que c'est. On lui répond que c'est un jeu, une sorte de puzzle, enfin un truc de stratégie qui s'appelle Tetris. Stein veut essayer. 15 minutes plus tard, il demande à voir un responsable.
Appelez-moi le directeur !
Robert Stein ne perd pas de temps. Il dit qu'il aimerait acheter les droits de ce jeu-là, Tetris. Le directeur du centre de recherche hongrois sourit. Lui aussi trouve ça addictif. Cela fait quelques semaines qu'il rend accro tous ses employés. Mais malheureusement, il ne peut pas le vendre. Le jeu ne leur appartient pas. Il a été inventé par un ingénieur russe. Et le seul moyen de le contacter, c'est d'envoyer un Telex, l'ancêtre du fax, ou bien d'aller à Moscou et tenter d'entrer en contact avec un certain Alexei Pajitnov.
En 1984, Alexei Pajitnov est ingénieur à l'Académie des sciences de Moscou. Spécialiste du langage, il développe des outils d'enregistrement et de traduction par ordinateur qui sont utilisés par le KGB. Alexei est un homme simple. Il se lève tous les matins, 7 heures, mange des œufs, du fromage, avant d'aller au travail. Il programme des choses sur des machines archaïques comme son Electronica 60, un PC soviétique lent comme un tracteur malade, mais qui permet quand même à Alexei de s'amuser et créer des choses le soir quand tout le monde est parti.
Je suis tranquille, je ne fais rien, personne ne m'emmerde, je ne fais rien, je suis tranquille.
Avec deux compagnons de bureau, Alexei étudie le code informatique d'un des seuls jeux vidéo qui a passé le rideau de fer, Pac-Man. Et les trois compères se mettent à rêver de développer des logiciels et des jeux qu'ils pourraient un jour vendre dans le monde entier. C'est comme ça que Pajitnov va se mettre à développer des jeux en adaptant des puzzles qu'il aimait quand il était petit. Un soir, il repense à son jouet préféré, le Pentomino, des blocs de 5 cubes aux formes différentes qu'il fallait réussir à emboîter pour former un rectangle.
Il se met devant son ordinateur et il code. Bon, pour que ça soit plus simple, il décide de faire des blocs de 4 cubes, des Tetrimino. Ça marche, c'est hyper facile à prendre en main, mais problème, le jeu est chiant. Une fois qu'on a emboîté les cubes, c'est fini, on a rempli son écran, alors il décide qu'à chaque fois qu'on complète une ligne, elle s'efface. Et là, le jeu devient infini. Il appelle ça Tetris, mélange de tétro et de tennis, le sport préféré d'Alexei.
Oh, pour con.
Début 85, il montre le jeu à ses collègues. En quelques jours, tout le monde est accro et il ne faut que quelques semaines pour que, dans tous les bureaux de Moscou, le jeu soit sur tous les ordinateurs disponibles. À tel point que le jeu est banni de l'Institut de recherche médicale avant d'être utilisé pour travailler sur les addictions par le service psychologie.
Aidé de son collègue Vadim, Alexei adapte Tetris pour le rendre compatible avec les PC IBM plus modernes. Et comme monter une entreprise individuelle pour faire du profit, c'est interdit à cette époque en Russie, l'Académie des sciences commercialise au nom de l'État russe le jeu en Pologne et en Hongrie. C'est comme ça que Robert Stein, notre businessman anglais du début, tombe sur Tetris en 86 et décide d'envoyer un Telex reçu par Alexei qui n'en revient pas. L'Occident veut acheter son Tetris.
Ouais, mais ce n'est pas si simple. L'ingénieur russe ne peut rien décider seul. Son jeu appartient au Kremlin. Et il doit passer des semaines à présenter l'opportunité à sa hiérarchie, qui elle-même doit consulter des gens haut placés. Mais près de 2 mois plus tard, Robert Stein reçoit une réponse. Un fax venant de Russie, lui disant « Nous sommes intéressés, trouvons un accord. »
Et voilà, on a les droits.
Pour Stein, ce message, vague, est suffisant. C'est un accord écrit. Il ne perd pas de temps. Il présente le jeu directement à l'éditeur de logiciels britannique, Mirrorsoft. Le patron de Mirrorsoft demande à Stein « Je peux savoir ce que Tetris a de spécial ?» Stein lui répond « Sortez de votre bureau. Vous verrez que votre secrétaire et la moitié des employés sont déjà en train d'y jouer. » Affaire conclue. Tetris est vendu à Mirrorsoft et son partenaire américain Holobyte, qui possède maintenant les droits pour la version ordinateur.
Aux États-Unis, le marketing du jeu est axé sur la Russie. Sur la boîte, le nom est écrit en russe avec pour slogan « Le challenge soviétique ». Et les illustrations sont celles du Kremlin. Les développeurs ajoutent même de la musique russe pour la bande-son. Toute la promotion est un succès. Et aux États-Unis, on veut savoir ce qu'est ce jeu made in URSS. Le lancement est prévu pour le début d'année 88 pour tous les ordinateurs IBM.
Mais c'est super ça !
Tetris est un succès immédiat. 100 000 ventes en quelques mois aux États-Unis, avec des journalistes qui trouvent le jeu tellement addictif qu'ils se demandent si ce ne serait pas une tactique des Russes pour réduire la productivité des Américains. Un succès qui laisse présager d'un raz-de-marée dès que les deux éditeurs, l'anglais et l'américain, pourront négocier avec Robert Stein les droits d'adaptation pour les consoles et amener Tetris non plus sur des ordinateurs, mais dans tous les salons. Seulement, Robert Stein est un peu dans la merde.
Eh oui, les Russes accusent l'homme d'affaires anglais d'avoir vendu illégalement les droits du jeu, sans contrat, en se basant uniquement sur le fax de Pajitnov, qui n'est en aucun cas un accord légal. Après des mois de négociations, le ministère de l'économie russe, via son agence de vente de technologie, et l'ORG, signent un contrat avec Stein. Les droits de Tetris sont cédés pour tous les ordinateurs. On pense que la bataille est terminée, mais elle ne fait que commencer.
Lors du Salon des Nouvelles Technologies, le CES de Las Vegas en 88, alors que la version PC de Tetris est présentée, un homme va tomber dessus. Son nom, Hank Roberts, hollandais, devenu américain, avant de partir s'installer au Japon. Il est développeur de jeux vidéo. Quand il tombe sur la démonstration de Tetris, il en est persuadé, c'est ça. C'est ce jeu qu'il faut pour la nouvelle console portable japonaise que Nintendo s'apprête à lancer. Il doit acheter les droits de Tetris. Il va se rendre compte qu'en réalité, malgré le contrat signé, ses droits n'appartiennent à personne. La suite de cette histoire, c'est une course contre la montre. Entre Nintendo, Robert Stein, des milliardaires anglais, l'État russe, tout va se jouer à Moscou, sous la surveillance de plusieurs gouvernements et du KGB.
Toute l'actu d'Internet
avec Réseau.
La suite, jeudi prochain, parce que c'est une histoire de dingos. Évidemment, c'est ainsi que se termine cet épisode de Réseau. Merci à Roxane Avis d'avoir réalisé cette émission. Évidemment, merci à nos deux auditeurs, nos deux auditeurs préférés du jour, nos trois auditeurs préférés du jour. On va démarrer par Estelle. Et évidemment, Sabrina, la maman de Maël, et Karim, le papa, qui fête son anniversaire.
Joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire Karim.
Et oui, joyeux anniversaire, papa.
Ah bah oui, c'est vrai, tu nous l'avais pas dit, ça.
C'est ça.
Tu nous l'avais pas dit. Elle avait... T'as vu ça? Elle avait déjà gardé le truc pour la fin, pour faire
t'as
une fin banger.
Et franchement, gros big up à toi, Maël.
Bravo, Maël.
Quand tu veux, super remplaçante de Tasio, il n'y a pas mieux, franchement.
Super sub, Maël. Évidemment, on vous souhaite un très bon week-end. Restez bien avec nous sur Mou. Vous avez rendez-vous, évidemment, ce soir avec moins de 10K. D'ailleurs, Anis, dans moins de 10K vous en parlera, il y aura bientôt un concert spécial moins de 10K. Restez branchés, on vous en dira plus bientôt.
Et tout de suite, on écoute la pépite du 18e, c'est Merveille et son titre Paqueta. Passez une bonne journée, un bon week-end.
Bon week-end.